Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Au troisième jour de la convention républicaine ici aux États-Unis, le vice-président Mike Pence a averti « Vous ne serez pas en sécurité dans l'Amérique de Joe Biden », assurant mercredi que le président Donald Trump est le seul capable de résister aux assauts de la gauche radicale. Dans un discours prononcé sur fond de violence en marge de manifestations antiracistes à Kenosha dans le Wisconsin, le vice-président américain a dressé le sombre tableau d'une élection où la loi et l'ordre sont en jeu. Il ne s'agit pas vraiment de savoir si l'Amérique sera plus républicaine ou démocrate. La question posée dans cette élection est de savoir si l'Amérique restera l'Amérique, a lancé Mike Pence. Nommé par le président, chef de la Task Force sur le coronavirus, M. Pence a rendu hommage au courage et à la compassion des Américains. Il a dénoncé la vision à ses yeux trop sombre mise en avant par les démocrates, citant de récents doutes de leur candidat, Joe Biden, sur un possible miracle. Et il a annoncé « Nous sommes sur le point d'avoir le premier vaccin sûr et efficace au monde d'ici la fin de l'année ». La convention républicaine s'achève ce jeudi avec le discours de M. Trump depuis les jardins de la Maison-Blanche. États-Unis toujours, Jacob Blake, l'Africain-Américain grièvement blessé à Kenosha dans le Wisconsin, avait un couteau dans sa voiture, ont déclaré mercredi les autorités du Wisconsin. Cette nouvelle bavure policière apparente a relancé le mouvement de contestation antiraciste dans le pays. Le président Donald Trump a annoncé mercredi l'envoi de renforts de la police et de la garde nationale à Kenosha, où deux hommes ont été tués dans une fusillade lors de manifestations réclamant la justice pour Jacob Blake. « Nous ne tolérerons pas les pillages, les incendies criminels, la violence et l'anarchie dans les rues américaines », a déclaré M. Trump sur Twitter. Au Mali, le mouvement de contestation du M5-RFP, qui a mobilisé pendant des semaines contre l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, s'est dit mercredi disposé à accompagner la junte qui a finalement renversé M. Keïta dans le processus de transition devant rendre le pouvoir aux civils, selon l'AFP. La junte a formellement reçu pour la première fois la coalition. Par ailleurs, et selon l'agence Reuters, les responsables du coup d'État ont déclaré à une délégation de la CEDEAO vouloir garder le pouvoir pendant une période de transition de 3 ans. Reuters cite un communiqué de la présidence nigériane, citant à son tour le chef de la délégation envoyée au Mali, Goodluck Jonathan. Côte d'Ivoire, Kwadwo Konan Bertin, dit Kakabé. En rupture avec le PDCI du candidat Henri Konan Bédié, a déposé mercredi son dossier de candidature à Abidjan, se présentant comme un candidat indépendant. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 24 civils ont été tués en 2 jours dans le territoire de Beni dans des attaques attribuées au groupe armé des ADF, a appris mercredi l'AFP auprès d'une source locale. En Nouvelle-Zélande, le tueur des mosquées de Christchurch, Brenton Tarrant, a été condamné jeudi à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour avoir assassiné 51 fidèles musulmans en 2019. L'ouragan Laura a atteint les côtes de la Louisiane après s'être renforcé en catégorie 4 sur une échelle qui en compte 5, ont annoncé les services météo américains. Il a touché terre avec des vents soufflant jusqu'à 240 km par heure. Le Centre national des ouragans mentionne une onde de tempête catastrophique, des vents extrêmes et des inondations soudaines dans certaines zones de la Louisiane, au passage de l'ouragan. suite de nos informations, en Côte d'Ivoire, les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo, acquitté en première instance à la CPI, annoncent vouloir déposer sa candidature pour la présidentielle du 31 octobre. Deux jours plus tôt, la justice avait pourtant radié de toute élection, en confirmation d'une décision de la commission électorale indépendante. Les détails avec Eddie Isango.
L'annonce a été faite hier par la coalition EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui soutient l'ancien président ivoirien. Laurent Gbagbo, lui-même, est encore en Belgique en liberté conditionnelle après son acquittement. Il attend un éventuel procès en appel devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité commis dans la période électorale de 2010. Le dépôt des candidatures se fera jusqu'à lundi en Côte d'Ivoire et les candidats ne doivent pas nécessairement être présents. Laurent Gbagbo devra faire face à sa radiation par la CENI, confirmée par la justice, s'il choisit vraiment de se présenter à la présidentielle. Mais il continue d'attendre un passeport ivoirien qui ne lui a pas encore été octroyé. La CPI lui a accordé d'aller dans n'importe quel pays à condition que celui-ci l'accepte au préalable. L'ancien président ivoirien pourrait aussi faire face à la candidature de Pascal Affi-N'Guessan à la tête du FPI, son parti, depuis son incarcération. Deux autres candidats qui étaient aux élections de 2010 pourraient aussi être là. Le président au pouvoir, Alassane Ouattara, qui a déjà déposé sa candidature, et l'autre ancien président, Henri Konan Bédié, qui devrait le faire jeudi.
En République démocratique du Congo, 21 militaires et policiers sont jugés pour viol dans l'est du pays, en présence de 23 de leurs victimes. Le verdict est attendu pour le 2 septembre. Le point avec Abdourahman Dia.
La justice militaire juge ces policiers et militaires depuis le début de la semaine dans la province du Sud Kivu, selon le major Alain Juangenga Luanzu, le juge président. Ils sont poursuivis pour des viols, violences sexuelles commis au courant de cette année dans la plaine de la Ruzizi entre Bukavu et Uvira, dans une région déstabilisée par les groupes armés et le banditisme. Un groupe de 23 victimes se sont constitués partie civile. Comme lors d'autres procès ces dernières années, la fondation Panzi du célèbre gynécologue congolais Denis Mukwege accompagne ces victimes de violences sexuelles. Des femmes de divers âges, dont une fille de 9 ans, mais aussi un jeune garçon, font partie des victimes, selon la fondation Panzi. Selon le capitaine Joseph Nganama, procureur militaire, le procès se veut pédagogique pour dissuader des hommes en armes de commettre des actes contraires à la loi, comme prendre des femmes de force. C'est aussi un message pour que les civils sortent de leur peur et sachent que le militaire n'est pas au-dessus de la loi, a-t-il ajouté.
Libye, Amnesty International demande la libération immédiate de toutes les personnes détenues, un appel qui fait suite à l'enlèvement dimanche d'au moins 6 manifestants à Tripoli, la capitale, lors de rassemblements contre la détérioration des conditions de vie. Mohamed Houmfa fait le point.
Les heures de dimanche ont éclaté lorsque des hommes armés ont ouvert le feu pour disperser la foule, faisant des blessés. Amnesty International croit savoir que les manifestants ont été attaqués par une milice alliée au gouvernement d'Union nationale, le GNA reconnu par l'ONU. Durant ces incidents, au moins 6 personnes ont été enlevées et leur localisation reste inconnue. Amnesty International souhaite que la liste des 10 personnes soit immédiatement communiquée et demande leur libération. L'ONU a également réclamé lundi une enquête internationale sur les incidents armés. Selon un communiqué du GNA diffusé mercredi soir, à l'issue d'une réunion sécuritaire sur les heures, des hauts responsables réunis autour du chef du gouvernement Fayed al-Sarraj ont demandé la libération immédiate de toutes les personnes qui n'ont pas été impliquées dans des actes de vandalisme. Des manifestations contre les mauvaises conditions de vie et la corruption ont lieu depuis dimanche en Libye, notamment dans la capitale. Mais le GNA a décrété un confinement total à Tripoli et dans sa banlieue, officiellement pour lutter contre le Covid-19.
La Minute Éco, John Linden.
La 8e édition de la Foire Promote, un temps des salons internationaux de l'entreprise, de la PME et du partenariat, aura lieu du 24 avril au 2 mai 2021 à Yaoundé au Cameroun. L'information, selon le site cameruninfo.net, a été rendue publique
par le mandataire du gouvernement camerounais, la Fondation Interprogrès. Cette dernière indique qu'il sera question durant 4 jours de mobiliser les différentes intelligences continentales afin de jeter les bases de la relance des économies africaines. Comme lors des précédentes éditions, cette 8e édition est placée sous le haut patronage du président camerounais Paul Biya. En Afrique du Sud, Imperial Logistique annonce 1000 suppressions d'emplois, à en croire le site Financial Afrique. L'entreprise a fortement été impactée par les interdictions de vente de tabac et d'alcool pendant le confinement. Avec cette décision, le groupe cherche à restructurer et réduire les coûts provoqués par la pandémie de COVID-19. Côté à la bourse de Johannesburg, Imperial Logistique a également annoncé mardi une baisse de 65% de ses bénéfices annuels. Le groupe compte environ 25 000 employés répartis entre l'Afrique du Sud, le reste de l'Afrique et ses opérations internationales. La compagnie Emirates annonce la reprise de ses vols vers 77 destinations. À en croire le site Financial Afrique, Emirates reprendra ses services passagers vers Conakry en Guinée et Dakar au Sénégal à partir du 3 septembre prochain, portant à 8 le nombre total des villes desservies par la compagnie en Afrique. Les vols au départ de Dubaï vers Conakry et Dakar seront des services liés opérés 2 fois par semaine. Emirates dit avoir mis en place un ensemble complet de mesures à chaque étape du voyage pour assurer la sécurité de ses clients et de ses employés au sol et dans les airs.
Les sports à présent, Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Basketball pour commencer. Les joueurs de Milwaukee et d'Orlando ont refusé hier de jouer un match éliminatoire du premier tour des playoffs. Ils ont ainsi agi pour protester contre les violences policières à l'égard des Noirs après la vidéo montrant Jacob Blake, un homme noir de 29 ans, se faire tirer dessus par la police à Kenosha, dans le Wisconsin, dimanche. Les joueurs de Toronto et de Boston pourraient eux aussi ne pas jouer leur premier match des demi-finales de conférence Est en play-off ce jeudi. Les joueurs des Raptors et des Celtics se sont rencontrés mardi soir afin de discuter d'un boycott du match, affirme The Undefeated, citant des sources au sein des deux équipes. De son côté, Yahoo Sport assure que des discussions ont également eu lieu au sein du syndicat des joueurs sur la façon dont pourrait être menée une pareille action. Selon le site, des joueurs ont expliqué au syndicat ne pas avoir la tête à jouer au basket. Un certain nombre d'entre eux se disant psychologiquement affectés par la vidéo montrant des policiers tirer sur Jacob Blake. Pendant ce temps, l'équipe des Indiana Pacers a annoncé le licenciement de son entraîneur Nate McMillan 2 jours à peine après l'élimination au premier tour des playoffs par Miami 4-0. Âgé de 56 ans, McMillan a été nommé entraîneur des Pacers juste avant la saison 2016-2017 après avoir dirigé les Blazers de 2005 à 2012. En 4 saisons, il les a menés à 4 reprises en playoffs, mais n'a jamais dépassé le premier tour. Son bilan total est de 183 victoires et 136 défaites. Lundi, Philadelphie, du Camerounais Joel Embiid s'est séparé de Brett Brown après l'élimination 4-0 au premier tour des playoffs par les Boston Celtics. Alvin Gentry a lui aussi été limogé par les Pelicans de la Nouvelle-Orléans pour ne pas avoir pu qualifier l'équipe en playoffs. Les dates des demi-finales de la Ligue des champions CAF sont connues. Le Raja Casablanca recevra le Zamalek d'Égypte le 25 septembre et le match retour est prévu le 2 octobre au Caire. Dans l'autre confrontation maroco-égyptienne, le Wydad fera face à Al Ahly le 26 septembre avant la rencontre retour le 3 octobre. Si 2 clubs d'un même pays se qualifient pour la finale, elle se jouera dans le pays en question, soit donc au Maroc ou en Égypte. Dans le cas contraire, la finale aura lieu sur terrain neutre. Le feuilleton de la star argentine du FC Barcelone se poursuit. Lionel Messi ne nous a pas communiqué qu'il n'allait pas se présenter aux entraînements, a annoncé le directeur sportif du FC Barcelone, Ramon Planes, mercredi, assurant que le Barça cherche, je cite, « la meilleure solution pour le club et pour Messi dans ce début de divorce. Nous voyons Messi comme un joueur du Barça. Le Barça s'est reconstru plusieurs fois durant son histoire et il est toujours revenu plus puissant. Notre idée, c'est de le faire encore une fois autour du meilleur joueur du monde », a répété le directeur sportif qui ne perd pas espoir de retenir la superstar au club.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seydoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, l'ancien parlementaire Guillaume Soro et l'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé ne pourront pas se présenter à la présidentielle du 31 octobre. Ils ont chacun été condamnés à 20 ans de prison dans différentes affaires. La justice a confirmé leur radiation des listes par la commission électorale. L'opposant Akossi Bendjo, ancien maire du plateau à Abidjan, a lui aussi été radié. Yacouba Ouédraogo a joint Alexis Tano, journaliste et analyste politique.
Ils ont tous été condamnés à 20 ans de prison, mais le problème c'est que, c'est un débat juridique, hein, leur condamnation n'est pas encore définitive. Ils ont été condamnés par défaut, on dit par contumace. Or, pour être radiés, selon ce que la loi dit, il faut que la condamnation soit définitive, c'est-à-dire n'étant plus susceptible de voie de recours. Ouais, c'est ce que les avocats disent et c'est ce qui est dans la loi aussi. Or, il se trouve que ni le tribunal, ni le président de la CEI n'ont tenu compte du fait que leur jugement n'était pas encore définitif et qu'à tout moment, si ces personnes arrivaient à Abidjan, ils pouvaient saisir la justice pour revenir sur la décision.
Si Laurent Koudou Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé ne sont plus électeurs, la conséquence logique, elle est là. Ils ne sont plus aussi éligibles et donc ils ne pourront pas postuler à la candidature à la présidence de la Côte d'Ivoire. Ça va de fait.
De toute évidence, oui. Je crois que le combat n'est pas perdu. On voit Guillaume Soro qui a lancé un mot d'ordre qui dit que lui, dans tous les cas, il persistait, il signait, qu'il sera candidat et qu'il va le gagner. Du côté du FPI pro Laurent Gbagbo, ils disent que Laurent Gbagbo reste leur candidat. Et l'avocat de Laurent Gbagbo a encore saisi la justice pour un autre recours par rapport à cette décision de radiation qui avait été prise. Donc nous comprenons que c'est un débat juridique qui va s'engager.
Et donc finalement, le président Ouattara a déposé sa candidature lundi dernier. Guillaume Soro s'était déclaré candidat. Finalement, ce sera compliqué pour lui. Laurent Gbagbo, pratiquement plus possible au vu de la loi et au vu de ce qu'a décidé le tribunal. Ali Kona Bidji s'est déclaré candidat. Il n'a pas encore déposé son dossier. Afi Nguessan, pareil. Finalement, on se demande, Ouattara fera face à qui à cette présidentielle du 31 octobre?
À la lieu où les choses vont, on risque de se retrouver dans la situation de 2015, où il y a eu un candidat plus fort et en face des candidats peu importants. Déjà, en ce qui concerne la candidature du président du PDCI RDA, il y a encore des doutes parce que les responsables du pouvoir ont laissé déjà entendre que le président Ali Konan Bédié serait frappé d'inéligibilité parce que dans la loi ivoirienne, un ancien président est membre du conseil constitutionnel. Or, quand tu es membre du conseil constitutionnel, tu ne peux pas faire à des candidatures à la présidence de la République, l'article 4 du code électoral.
On sait que la troisième candidature de Alassane Ouattara est déjà contestée avec des violences dans certaines villes de la Côte d'Ivoire et même quelques morts. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que cette décision du tribunal en ajoute aux violences déjà en cours?
C'est vrai que leurs partisans demeurent mobilisés, mais je pense que pour le moment, nous n'en sommes pas là, vu ce qui s'est passé avec les morts qu'on a déjà enregistrés et puis les appels au calme. Je pense que les responsables réfléchiraient par deux fois avant d'appeler encore à manifester. Surtout qu'on accuse la police de ne pas assurer suffisamment la sécurité des gens. On accuse des enfants en conflit de la loi de s'être infiltrés et de massacrer les marcheurs.
Alexis Tano, analyste politique, joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Le barreau nigérian s'insurge contre les assassinats fréquents dans le pays, annulant à cet effet l'invitation adressée à un gouverneur du Nord pour prendre la parole lors de la conférence annuelle de l'organisation. Selon Amnesty International Nigeria, plus de 1000 villageois ont été tués dans le nord en 6 mois. 78 000 agriculteurs ont abandonné leurs terres à la suite d'attaques de terroristes et de bandits. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
On 24 July, on Friday, around 6:30, we Le 24 juillet, un vendredi vers 18h30, nous étions à la maison. Un groupe d'hommes armés est entré dans notre village. Après, ils ont commencé à tirer partout dans le village.
Les populations du Sud qui sont venues dans le Nord-Est vivent dans la peur au quotidien. Emmanuel Ali explique comment lui et sa famille ont été pris au piège par des coups de feu le 24 juillet dernier dans leur localité au sud de l'état de Kaduna. Les meurtres sont devenus assez fréquents dans le Nord. Les bandits armés s'en prennent généralement aux communautés, attaquant et tuant des résidents et incendiant leurs maisons.
Après avoir mis le feu à notre maison, j'ai pris la fuite, mais j'ai eu le courage de revenir parce que ma maman est malade et paralysée depuis 6 ans. Elle était dans la maison lorsqu'ils ont mis le feu. Les flammes étaient presque arrivées à son niveau. J'ai enlevé la fenêtre par la force. Et je suis allé sortir ma mère.
De nombreux villages dans l'état de Kaduna ont été pillés à la suite de ces attaques. Kaduna est composé de chrétiens et de musulmans. Les chrétiens vivent principalement dans le sud, tandis que les musulmans sont majoritairement dans la partie nord. Les villageois du sud de Kaduna disent que les assaillants sont des musulmans, principalement des éleveurs de bétail, qui sont accusés d'utiliser leurs animaux pour détruire leurs récoltes. Jonathan Asake est le président de l'Union pour la défense du peuple du sud de Kaduna, Sokapu.
Rien d'autre que le problème de terre. Les indigènes et propriétaires de ces terres sont en train d'être chassés de leurs terres graduellement. Les peuls nomades viennent occuper ces terres. C'est l'expérience que nous vivons dans nos communautés tous les jours. Donc, c'est un génocide, un nettoyage ethnique qui se passe dans le sud de Kaduna.
Mais le gouverneur de l'état de Kaduna, El Rufai, donne une autre version des faits et ce qui est à l'origine des attaques récurrentes dans cette partie du pays.
Tout commence souvent entre un individu d'un groupe ethnique et un autre ou de différentes religions si cela oppose deux personnes d'une communauté. Et ce conflit doit normalement être résolu pacifiquement par les leaders religieux ou la police ou encore autre entité locale. Mais ça finit toujours par s'étendre et devenir un conflit entre groupes ethniques.
Le gouverneur El Rufai devrait s'exprimer à la conférence annuelle du barreau nigérian, mais l'invitation lui a été retirée par le leadership de l'organe. Les auteurs de ces assassinats ne sont pas encore connus ni arrêtés, et les populations accusent les autorités de l'État de ne rien faire. Il y a des semaines, des agents de sécurité à Kaduna ont arrêté 8 personnes soupçonnées d'être impliquées dans les meurtres. Il s'agissait de la première arrestation majeure par les troupes de l'opération Safe Haven. Une force opérationnelle militaire spéciale déployée pour maintenir la paix dans la région. L'état de Kaduna n'est pas le seul état victime d'attaques dans le nord. Selon Amnesty International Nigeria, 7 états sont touchés. Le constat est alarmant. Plus de 1000 résidents ont été assassinés dans un intervalle de 6 mois et quelques 380 autres enlevés. Certains ont été libérés par rançon et d'autres tués par leurs ravisseurs. Des attaques qui constituent aussi un coup dur pour les agriculteurs du Nord, la principale activité de ces populations, obligeant 78 000 à abandonner leurs terres agricoles de peur de se faire attaquer. La mission des Nations Unies au Nigeria s'est dit préoccupée. Une délégation onusienne est allée voir le président Mohamed Bouhari au sujet de l'épineuse question le week-end dernier. Edward Kallon a conduit la délégation à la villa présidentielle.
J'ai dit au président qu'en plus des efforts militaires, il faut compléter cela par un processus politique de dialogue pour trouver une solution durable à la crise. Donc nous pensons qu'il faut employer différents moyens pour trouver une solution.
Ces meurtres ont récemment déclenché des manifestations dans certains états, notamment à Kaduna, Abuja et Lagos, par les habitants des communautés locales. Ils ont exigé la fin immédiate de ce qu'ils ont qualifié de génocide en cours dans leur village. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Le débat acrimonieux ici aux États-Unis sur le Second Amendement et le contrôle des armes à feu occupe une place centrale dans les conventions démocrates et républicaines. Lundi, les républicains ont fait parler, en soutien au président Donald Trump, un couple de l'État du Missouri qui avait pointé des armes sur des manifestants de Black Lives Matter près de leur maison. Catherine Gibson examine les différences entre le républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden sur la question du port d'armes. Le récit est de John Linden.
Le droit de porter les armes est inscrit dans la Constitution américaine, mais selon le président Trump, ce droit sera supprimé par les démocrates s'ils prennent contrôle de la Maison-Blanche.
Ils arracheront vos armes aussi sûrement que vous êtes assis ou que vous vous tenez là. Arrachez vos armes ou obliterez votre deuxième amendement.
Les droits prévus par le deuxième amendement de la Constitution ont toujours occupé une place importante dans le débat politique américain du fait du rôle joué par les armes dans l'édification du pays. Alex Clayton enseigne à l'American University de Washington.
Au nom d'une aptitude à prévenir un gouvernement tyrannique, donc ce désir d'avoir cette protection en tout temps, sous-entend, et imprègne toute la société américaine.
Le droit de porter les armes a été mis en exergue la première nuit de la Convention républicaine par le couple Mark et Patricia McCloskey du Missouri. Ses avocats s'étaient rendus célèbres sur les réseaux sociaux en portant des armes sur des manifestants de Black Lives Matter. Mark McCloskey.
Le président Trump défendra le droit donné par Dieu à chaque Américain de protéger sa maison et sa famille.
Mais les fréquentes fusillades ces dernières années ont attisé les manifestations en faveur de lois sur le contrôle des armes à feu. La plupart des Américains soutiennent quelques restrictions au port d'armes selon les sondages. Le consensus autour du sujet est tel que le Parti démocrate l'a souligné lors de sa convention la semaine dernière. De nouveau, Alex Clayton.
Se concentrer sur la réduction de la violence armée est un sujet qui peut unir pratiquement tout le monde sous la tente du Parti démocrate. Cela a du sens de se concentrer dessus plutôt que sur quelque chose d'un peu plus litigieux.
L'ancien vice-président Joe Biden dit que s'il est élu, il instituera une enquête de moralité universelle, qu'il œuvrera pour l'interdiction des armes d'assaut, de même que l'adoption des lois permettant de confisquer les armes de personnes jugées comme présentant un risque pour elles-mêmes et pour les autres. Selon un récent sondage Pew Research, 55% des électeurs américains inscrits affirment que la politique concernant le port d'armes constituera un important aspect de leur vote aux élections de novembre.
Au Togo, il existe un orchestre particulier composé de personnes en situation de handicap visuel, les Happy Brothers. Ce groupe musical attire des jeunes non-voyants pour les accompagner dans la vie sociale à travers diverses initiatives. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Les membres de l'orchestre Happy Brothers sont au complet pour une séance de répétition au siège de l'association qu'il a créée il y a 23 ans. En effet, en 1997, l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement, AHDCD, a voulu passer par la musique pour mettre fin à la discrimination dont est victime cette frange de la population. Emmanuel Yao Aziakese, premier vice-président de la HDCD.
Nous avons réalisé qu'il y a des potentialités parmi des personnes handicapées visuelles et, entre autres aussi, permettre à ces personnes de jouir de leur citoyenneté pleine et entière sur la base de l'égalité avec les autres. Et quand je parle de citoyenneté pleine et entière, c'est-à-dire faire également valoir leur potentialité, entre autres la musique. Et nous avons constaté qu'en matière de musique, il y a des guitaristes, il y a des pianistes, il y a des batteurs, et puis il y a des chanteurs, compositeurs et beaucoup de vocalistes. C'est pourquoi nous nous sommes mis ensemble pour mettre en place cet orchestre Happy Brothers.
Même si la discrimination à l'égard des personnes vivant avec une déficience visuelle n'a pas totalement disparu, la musique contribue à changer la perception du public sur ces personnes en situation de handicap. Le groupe Happy Brothers a aujourd'hui à son actif 3 albums. Ces morceaux ont le mérite d'appeler à une prise de conscience. L'orchestre a composé dernièrement un morceau sur les gestes barrières contre la pandémie de COVID-19. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Voilà, c'est C'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebuga et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.